France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu doit donc récupérer à son tour les clés de Matignon. La passation de pouvoir a lieu en ce moment même avec François Bayrou. Une journée décidément riche en émotions pour le nouveau Premier ministre, puisqu'au même moment se tient la journée de mobilisation. Bloquons tout à travers le pays, nous serons à Montargis et à Lyon. Et puis on décryptera le télescopage de ces deux événements avec notre invité aujourd'hui, Benjamin Morel, maître de conférence à l'université Paris de Panthéon à Sas. Et puis l'actualité à l'étranger, ce sont tout d'abord les réactions diplomatiques au lendemain des frappes israéliennes menées contre des dirigeants du Hamas au Qatar. Nous serons à la fois aux États-Unis et au Parlement européen. Et puis on reviendra sur les violations répétées la nuit dernière de l'espace aérien polonais par l'armée du Kremlin. Sébastien Lecornu sera-t-il l'homme de la situation, celui capable de déjouer le sort réservé à tous ses prédécesseurs? Seule certitude, ce macroniste de la première heure est d'abord et surtout l'homme du président, un fidèle parmi les fidèles, le doyen même de tous les ministres parmi les gouvernements successifs depuis 2017. Alors évidemment, au regard des réactions, disons plutôt fraîches, voire carrément hostiles de l'opposition à l'annonce de sa nomination, prendre ses marques à Matignon, qui plus est, le genre même d'une mobilisation sociale appelant à bloquer tout le pays, relève de la gageure, sans compter que la première tâche que lui a confiée le chef de l'État sera de consulter les forces politiques avant de former un gouvernement, autrement dit, de se confronter à ses adversaires. Mais son entourage l'assure, Sébastien Lecornu aurait pour cela toutes les qualités requises, le sens de l'État, le sens des négociations, le calme déjà à 39 ans d'un ancien sénateur, sans oublier l'absence d'ambition présidentielle. Reste que pour tenir son futur gouvernement, il devra obtenir à minima une non-censure. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Et ce matin, le Parti Socialiste a, lui, déjà commencé à poser ses conditions.
Oui, on demande à juger sur pièce les qualités de négociateur tant vantées dans les portraits du nouveau Premier ministre. Olivier Faure s'en est amusé ce matin chez nos confrères de France Info. Grand négociateur, c'est ce qu'on avait dit pour Michel Barnier. Puis François Bayrou, l'homme du dialogue avec qui tout devait changer. On a vu le résultat. Dans les faits, si Sébastien Lecornu renonce à gouverner par 49-3, ce serait une démonstration que la méthode change, estime le patron des socialistes. Sur le fond ensuite, le PS garde une position de prudence raisonnable, une distance sanitaire entre nous et le gouvernement, confirme un député. Pas de ministre socialiste, mais des socialistes ouverts au dialogue. Pas de chèque en blanc, mais des compromis possibles au cas par cas qui permettraient à l'exécutif d'éviter la censure. Les socialistes doivent obtenir des mesures fortes et symboliques qu'ils pourront brandir comme des victoires. On parle par exemple de la mise en place de la taxe Zucman sur les plus riches ou d'une mesure qui figurait dans leur contre-budget, aussi la baisse des allègements de cotisations patronales. Tout cela fait partie des réponses possibles, a expliqué ce matin Olivier Faure, ce qui signifie qu'une fenêtre de négociation existe avec le futur gouvernement pour d'autres mécanismes que ceux-là qui risquent de froisser à droite du moment que ces mécanismes apportent de la justice fiscale. Une ligne rouge est pour l'instant évoquée, une longue liste d'intouchables sur lesquels les économies ne devront pas peser, les malades, les chômeurs, les jeunes, les retraités et les travailleurs. Autrement dit, à ce stade, la censure est probable, pronostique plusieurs cadres du parti.
Merci Adrien Toffolet. Alors cette fin de quinquennat a décidément quelque chose de crépusculaire entre d'un côté la stérilité des postures à l'Assemblée, livrée depuis des mois à la violence des invectives de part et d'autre de l'hémicycle, et puis de l'autre la défiance extrême qui s'est installée envers la classe politique. Emmanuel Macron aurait pu choisir la voie du compromis, il a préféré opter pour le choix du cœur, la nomination de son fidèle compagnon. Pas franchement un cadeau d'ailleurs pour Sébastien Lecornu, qui pourra jauger dès aujourd'hui de la colère sociale. Depuis ce matin, à l'appel du mouvement Bloquons tout, une myriade d'actions sporadiques a été enregistrée, blocage d'axes routiers mais aussi de lycées, et ce malgré les interpellations et les dispersions forcées menées par les forces de l'ordre. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous vous êtes rendu ce matin à une première manifestation à Montargis, là où les Gilets jaunes notamment avaient été particulièrement actifs. Et puis là aussi, Camille, où le Rassemblement National est lui arrivé en tête des deux dernières élections européennes et législatives.
voyez d'ailleurs les mouvements de gauche, syndicats et partis ont pris l'habitude là-bas de s'allier pour ne pas laisser toute la place à l'extrême droite. Et tout naturellement, ils ont investi les groupes de discussion qui ont organisé cette journée Indignons-nous, bloquons tout. Et ils ont appelé à une manifestation. Ils étaient environ 150 ce matin devant la préfecture, il y a maintenant un peu plus d'une heure et demie. 150 à manifester pendant une heure dans le centre-ville. Pas sûr que ça suffise pour Anna et Romain, tous deux professeurs et syndiqués.
Les manifestations d'une heure, nous on vient parce que ça nous tient à cœur, mais on attend qu'en fait ça démarre aussi quelque chose d'autre.
Pour qu'il y ait vraiment un blocage et une prise de conscience plus haut au niveau politique, il faudrait que ça soit reconduit un petit peu comme les gilets jaunes, c'est-à-dire tous les jours, jusqu'à que il y ait un vrai changement au niveau de là-haut.
Oui, parce que l'objectif affiché, c'est de forcer Emmanuel Macron à démissionner ou bien à changer radicalement de politique économique. Et la nomination hier soir d'un nouveau Premier ministre, plus macroniste encore que François Bayrou, n'a fait qu'ajouter à la détermination de ce gilet jaune de Montargis. Il ne donne pas son nom, mais il n'attend rien d'autre que d'y retourner.
Ah bah, s'il y a du monde, oui, il faut bloquer. Aujourd'hui, c'est bloquons tout. Il faut se montrer. Si on fait juste une manifestation et marcher et rentrer à 11h à la maison, ça sert à rien. Alors que si on bloque les rues, les ronds-points et tout ce qu'il faut, là, oui, là, on va entendre parler de Montargis et du peuple. Et peut-être qu'en haut, ils vont se demander pourquoi on est là, ils vont peut-être agir, quoi.
Et pour ça, Serge, animateur local du syndicat Solidaire, ne se fait pas d'illusion. Hein. Il va falloir aller bien plus loin que cette énième manifestation en centre-ville.
De toute façon, ce n'est qu'un premier pas. Pour nous, c'est aller vers la grève générale et pour avoir véritablement un gouvernement social et qui s'attaque à ceux qui méritent d'être attaqués, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent pour payer.
Alors ici, les indignés de Montargis sont en train de se compter et de discuter sur les actions qu'ils peuvent mener cet après-midi, demain et les jours d'après. Il y a des usines, des sites logistiques, des ronds-points, des rocades autour de la ville qui ont été identifiés comme des cibles potentielles d'actions à venir.
Merci Camille Magnin. Alors, cette mobilisation citoyenne se heurte en réalité depuis ce matin à la forte mobilisation des forces de l'ordre. Mathilde Berti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes-vous en direct de Lyon, dans le quartier de la gare de la Part-Dieu, où la matinée, Mathilde, a été, je crois, particulièrement tendue?
Oui, effectivement, la matinée a été marquée par des tensions, des petits groupes très mobiles qui ont monté des barricades, brûlé ici ou là une poubelle avant d'être délogés par des gaz lacrymogènes. Même scène depuis 6h30 ce matin, quartier Gare Perrache. Et c'est sans surprise pour ces deux cadres lyonnais.
De toute façon, la police, ils sont sur les canaux de Telegram, quoi que ce soit, donc c'est un peu compliqué. Puis bon, ils savent très bien disperser les gens, un coup de lacrymo, pas de sommation, tout pour décourager.
Il y a plein de gens différents qui ont des raisons d'être ici. Parce que nous, par exemple, on est des cadres, on n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Mais en fait, ça nous a quand même fait un peu sortir du bois parce que le budget, il tape un peu sur tout le monde aussi.
La préfecture évoque 9 interpellations à Lyon à ce stade. Ambiance plus pacifique à la manifestation de la mi-journée qui se trouve devant la Bourse du Travail avec un gros millier de personnes. Mais c'est provisoire comme chiffre. Ça arrive de toutes parts. Une manifestation lancée par une union locale CGT, rejointe par d'autres syndicats et surtout par les manifestants mobilisés depuis ce matin, comme Raja Hashmi, aide-soignante à l'hôpital Édouard Herriot, à ses côtés Ourida, une collègue infirmière.
On était bien remontés, surtout avec l'annonce qu'il y a eu hier avec le cornu aux commandes maintenant, Premier ministre. Là, on s'est dit, on continue, on ne sortira jamais de ce cauchemar.
Ça a été la goutte d'eau. Là, ça a été un foutage. Voilà, c'est vraiment. Il nous prend vraiment pour des imbéciles. Quoi. C'est vraiment. Ils ne tiennent même pas compte de ce que veut la population. Quoi. C'est vraiment un foutage de gueule.
Voilà, manifestation en cours et ce soir en AG, on décidera de la suite du mouvement.
Merci à Mathilde Imberti ainsi qu'à Martin Troadec pour les moyens techniques et pour continuer d'évoquer donc à nouveau cette crise à la fois sociale et politique sans précédent depuis la dissolution de l'Assemblée voulue par le chef de l'État, du jamais vu dans une 5e République, longtemps réputée pourtant pour sa stabilité. Invité de la rédaction à présent, Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon, Assas. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas.
Avec cette nomination à Matignon, Benjamin Morel, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron fait mine de ne pas entendre toutes les sirènes qui l'appellent aujourd'hui à changer de politique et surtout qu'il n'a au fond aucune espèce d'intention aujourd'hui de s'appliquer à lui-même ce qu'il ne cesse pourtant de réclamer aux autres depuis des mois en les appelant à faire preuve de responsabilité. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à alimenter davantage encore le feu de la contestation sociale dont on vient d'entendre les premiers échos?
Alors, en effet, c'est un risque fondamental. Alors, il faut bien comprendre que cette contestation sociale, elle a un impact direct sur la stabilité politique. Parce que si elle monte, il va être compliqué pour les groupes politiques, et notamment pour le groupe socialiste, de ne pas aller vers une forme de censure de Sébastien Lecornu. Je rappelle qu'il faut uniquement 21 députés socialistes qui votent la censure pour que le gouvernement tombe, si on part du principe qu'aujourd'hui, il y a une opposition claire du Rassemblement national. Et donc, évidemment, en faisant le choix d'un très proche, de quelqu'un qui apparaît un peu comme son double d'une certaine façon du point de vue politique, on a un Emmanuel Macron qui, là-dessus, risque de ne pas concourir à la stabilité.
Question de Stéphane Robert.
Et pour une fois, Emmanuel Macron est allé très vite. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Il y a une pression sur Emmanuel Macron. Alors évidemment, la pression de ce jour, la pression du mouvement Bloquons tout, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on voit monter une petite musique qui est celle de la démission du chef de l'État, comme si, entre guillemets, c'était le degré supplémentaire et la solution à cette crise politique. Et on entend de la part des Insoumis, mais pas que, Valérie Pécresse elle-même l'a évoqué en cas de chute du gouvernement, or le gouvernement vient de tomber. Donc dans ce cadre-là, l'idée de ne pas avoir de Premier ministre pendant un certain temps, c'est pour Emmanuel Macron se mettre en première ligne, créer une attente et potentiellement cristalliser des exigences de démission ou au moins des remises en cause. Donc il avait besoin très rapidement d'un fusible, même si ce fusible est peu efficace.
Et quel est l'intérêt de nommer un très proche comme Sébastien Lecornu ?
L'intérêt, je dirais, du profil de Cornu, c'est à la fois, en effet, la proximité. Alors, cette proximité, elle a double tranchant, mais pour Emmanuel Macron, c'est une façon de se remettre dans le jeu et de paraître comme étant lui-même, à nouveau, celui qui maîtrise le cours de son quinquennat et, peut-être l'espère-t-il, faire mieux que les deux anciens premiers ministres dans ce rôle un peu de chef d'orchestre. L'autre élément, c'est que Sébastien Lecornu n'est pas un irritant. En d'autres termes, il n'irrite pas les présidentiables potentiels parce qu'il dit ne pas avoir d'ambition présidentielle. Or, aujourd'hui, c'est un vrai sujet à un an et demi des futures élections. Et il n'est pas non plus, a priori, extrêmement irritant, évidemment pour les LR, pour les macronistes, ni même pour les socialistes, qui ne se réjouissent pas, mais qui n'ont pas une personne avec laquelle elles ne pourraient pas discuter. Si on avait, par exemple, nommé un Gérald Darmanin, qui est l'homme qui a fait la loi immigration, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile pour les socialistes de rentrer dans une logique de compromis. Là, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un peu moins compliqué.
Vous évoquiez tout à l'heure ce scénario de la démission d'Emmanuel Macron réclamée par certains. On sait que la France baigne dans une histoire de régicide révolutionnaire, où il est souvent presque de tradition de réclamer la tête du chef. Est-ce que cela pourrait changer quoi que ce soit à la crise de la Ve République ?
D'un point de vue institutionnel, non. C'est-à-dire que vous avez une démission du chef de l'État, ça vous donne pas un budget, ça vous donne pas un gouvernement. Le seul contact entre un président et un budget, c'est au moment où il le promulgue. Donc vous comprenez bien que si vous n'avez pas de majorité, un nouveau président ne réglera rien. Alors après, la question, c'est est-ce qu'un nouveau président peut dissoudre derrière et est-ce que cette dissolution peut régler la donne ? Si on regarde les cartes électorales aujourd'hui, le seul bloc politique qui semble pouvoir disposer d'une majorité absolue, c'est le Rassemblement National. Donc si vous avez un président de gauche centriste, a priori, sauf révolution électorale, mais c'est assez étonnant, ça sera assez étonnant à court terme, ça ne vous donne pas de majorité et donc ça ne règle pas vos problèmes.
Avant une éventuelle dissolution et une hypothétique démission du président, est-ce que le nouveau Premier ministre est en mesure de négocier et d'aboutir à faire adopter un budget, à votre avis ?
Il faut regarder un peu l'arithmétique parlementaire, c'est-à-dire que le RN n'est plus une route de secours possible pour le gouvernement parce que le RN, pour les raisons qu'on vient de donner, entre autres, met Paris aujourd'hui sur une dissolution. Donc en fait, le seul groupe qui a à la fois les effectifs, la discipline suffisante et qui en même temps peut apparaître comme n'étant pas tout à fait fermé, c'est le groupe socialiste. Donc tout dépend du groupe socialiste. Le problème du groupe socialiste, si vous voulez, c'est que il a des municipales derrière et que si jamais on ne lui donne pas de gains substantiels, si jamais ses électeurs se disent « vous avez promis Olivier Faure à la taxe Jukman, on a eu 3 cacahuètes et Sébastien Lecornu », le PS risque de se trouver en grande difficulté par rapport au reste de la gauche et par rapport à ses élections municipales. Ce qui joue en faveur de la stabilité, c'est que le PS, pour l'instant, a plutôt peur d'une dissolution parce que ça effacerait justement un peu de la carte les municipales qui se nationaliseraient et parce qu'il a peur de perdre des plumes lors de cette dissolution, ce qui peut les pousser au compromis, mais le compromis sans doute pas à n'importe quel prix.
C'est bien noté. Merci Benjamin Morel, maître de conférence à l'Université Paris de Panthéon-Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Stéphane Robert ainsi qu'à Aloïse Guérin pour la préparation.
Midi et 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Les suppliques éplorées des familles d'otages comme la mobilisation de leurs compatriotes pour que le gouvernement israélien négocie enfin avec le Hamas n'auront servi à rien en choisissant hier de cibler les leaders du mouvement islamiste au Qatar, le petit émirat qui jusque-là jouait un rôle de médiateur dans le conflit. Eh bien, Benjamin Netanyahu et sa coalition d'extrême droite ont donc choisi non seulement de torpiller les négociations et toute possibilité de trouver une quelconque issue à la guerre, mais aussi d'abandonner à leur sort tragique les 20 otages encore en vie dans la bande de Gaza, de même que de voir probablement disparaître à jamais les défunts. Même à l'échelle des actions dévastatrices menées par l'État hébreu en représailles aux attaques du 7 octobre, l'opération est inédite en franchissant toutes les lignes rouges. Tel Aviv a tout simplement réduit en cendres la diplomatie, au point que ces frappes représentent également un choc pour tous les autres pays de la région, y compris les alliés des États-Unis, dès lors que cette frappe remet en question les leviers que le Qatar, mais aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pensaient détenir sur Donald Trump, en particulier après lui avoir promis des milliers de milliards de dollars d'investissement lors de sa visite dans le Golfe au printemps dernier.
Et d'ailleurs, hier, le président américain n'a pas caché son mécontentement.
Non, Donald Trump affirme ne pas avoir été prévenu à l'avance de cette opération, même si quelques heures plus tôt, une haute responsable de la Maison-Blanche assurait le contraire. Les justifications contradictoires de Washington demeurent encore extrêmement floues et témoignent à tout le moins d'un certain malaise. Les précisions de notre correspondant Franck Madvan.
On sait que les relations sont parfois tendues entre Trump et Netanyahou. Cette fois, le différend ne fait aucun doute. Le président américain a admis ne pas avoir été prévenu de l'attaque israélienne. J'ai été très mécontent, dit-il à l'occasion d'une sortie à Washington. Il faut ramener les otages. Très mécontent de la manière dont ça s'est passé, répète-t-il. Un peu plus tôt, sur son réseau Truth Social, il a tenu à préciser que la décision a été prise par Netanyahou, pas par moi. D'après la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, ce bombardement ne promeut pas les objectifs d'Israël et de l'Amérique. Elle souligne que Donald Trump se sent très mal à l'aise après cette frappe sur le sol du Qatar, un allié fort, un ami des États-Unis. Le Pentagone aurait appris en direct l'attaque israélienne en observant les avions en route vers Doha. Le conseiller Steve Witkoff n'a même pas eu le temps d'alerter les autorités du Qatar. Les cibles avaient déjà été frappées. Trump estime toutefois qu'éliminer le Hamas est un objectif louable. Il veut voir dans cette attaque une opportunité pour la paix. Mais Israël, et ce n'est pas la première fois, a fait cavalier seul.
Et d'ailleurs, ce matin, l'ambassadeur israélien à l'ONU le précise à nouveau, nous n'agissons pas toujours selon les intérêts des États-Unis. Fin de citation. De son côté, la Commission européenne, elle n'a pas seulement fait part de son mécontentement. Ce matin, la présidente Ursula von der Leyen a dit vouloir sanctionner certains ministres israéliens jugés extrémistes, mais pas seulement Fabien Cazeau, puisqu'elle propose par ailleurs de suspendre partiellement l'accord d'association de l'UE avec Israël.
Longuement applaudie à la tribune du Parlement européen lorsqu'elle affirme que la famine ne peut servir d'arme de guerre, Ursula von der Leyen a voulu se montrer déterminée à passer de la parole aux actes.
Nous allons mettre en pause notre soutien bilatéral à l'État d'Israël. Nous allons cesser tout versement d'argent, tout en continuant à soutenir la société civile israélienne. Deuxièmement, nous allons proposer des sanctions contre les ministres extrémistes et les colons violents. Nous allons également proposer une suspension partielle de l'accord d'association commerciale entre l'Union européenne et Israël.
Un accord d'association qui repose au terme de son article 2 sur le respect des droits de l'homme par Israël. La Commission européenne confirme donc ce midi qu'à ses yeux, ce n'est plus le cas, condamnant la volonté du gouvernement israélien de mettre en échec une éventuelle solution à deux États.
Alors, dans son discours ce matin sur l'état de l'Union prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, Ursula von der Leyen ne s'est pas contentée de suspendre le soutien bilatéral de l'UE à Israël. La présidente de la Commission s'en est pris également à la Russie après l'intrusion la nuit dernière de drones dans l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine. Un acte d'agression, a commenté le centre de commandement de l'armée polonaise. Une première, surtout depuis le début du conflit pour ce pays. Sébastien Baer, membre de l'OTAN.
Oui, Varsovie recense pour l'instant 19 violations de son espace aérien la nuit dernière et indique avoir abattu au moins 3 drones, des drones russes, selon le Premier ministre polonais, cela ne fait aucun doute. Donald Tusk parle d'une agression et d'une provocation à grande échelle. Des avions de l'OTAN ont aussi été déployés pour neutraliser, selon le terme consacré, certains des appareils. Pas de victimes, mais des dégâts matériels. Un immeuble d'habitation a par exemple été touché à Viriki. C'est un village dans l'est du pays à 15 km de la frontière ukrainienne. Cette violation de l'espace aérien polonais Johnson-Eye a déclenché l'état d'alerte avec une réunion de crise à Varsovie. 4 aéroports, dont le plus important, celui de la capitale, ont été temporairement fermés. Les habitants de plusieurs villes de l'Est ont été invités à rester chez eux à l'abri. Par le passé, des drones ont déjà pénétré l'espace aérien polonais, mais cette intrusion est sans précédent. C'est d'ailleurs la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine que la Pologne abat des appareils venus de Russie. Varsovie vient de demander à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité de l'Alliance, article qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace contre l'un de ses membres.
On termine ce journal avec un mot du temps pour cet après-midi. Variable sur la moitié est, pluvieux à l'ouest. Quant aux températures, on les affichera entre 18 et 26 degrés. C'est la fin donc de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.